voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Élé Béji. Ce soir, le Collège international de Tunis.
Bonsoir Élé Béji.
Bonsoir.
Hier soir, vous nous avez parlé de votre enfance merveilleuse en Allemagne, à côté de Bonn. Vous nous avez parlé de votre arrivée à Paris en 1968 pour faire vos études. Vous avez passé l'agrégation de lettres. Et après l'agrégation, vous êtes rentrée à Tunis pour enseigner. Vous avez enseigné tout de suite à l'université?
Oui, j'ai tout de suite été à l'université. En fait, je suis allée pour enseigner au lycée parce que j'avais l'agrégation. Et puis, par un hasard tout à fait... Les agrégés, en fait, doivent aller à l'université, mais je ne le savais pas. Et par hasard, je suis allée voir les universitaires et je suis allée voir le doyen. Je me suis présentée, je croyais que j'étais une étudiante. Il m'a reçue d'un air sévère, comme ça. Et puis quand je lui ai dit qui j'étais, il m'a dit « Ah, et qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas ici ?» J'ai dit « Ben non, je suis allée au lycée de jeunes filles où j'avais fait mes études. » Il me dit « Mais non. » Et il a immédiatement fait un décret ou un truc qui m'a pris du lycée et qui m'a mise à la faculté des lettres.
Mais vous avez songé à rester à Paris et à enseigner à Paris, puisque vous étiez agrégée?
Non.
À enseigner au lycée en France?
Non. Non.
Pourquoi?
Parce que mon amour pour la Tunisie, qui s'était perdu au cours de mon séjour d'enfance allemand, est revenu. Je voulais être près de ma grand-mère, et je suis allée habiter chez elle. Et donc c'est là que la petite enfance qui avait été ensevelie sous la magie de l'Allemagne, donc la terre natale, quoi, la lumière de la terre natale est revenue, et que là, j'ai compris la force de la généalogie et la force des attachements qu'on peut avoir de ce qu'aujourd'hui on appelle le communautarisme. Ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, c'est un mot qui est nul et non avenu, hein, on peut le décortiquer, on peut expliquer qu'il n'a pas de sens. C'est les liens qui comptent, c'est les liens. Et la force des liens dans cette maison, et la force de la présence de ma grand-mère, cette espèce de charisme, j'ai écrit tout un livre sur elle, L'œil du jour. Et ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte combien la mémoire, le passé, ce que j'appelle la mémoire du quotidien, combien la poésie du quotidien était encore vivace chez nous. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'ai restauré la maison et que j'y habite moi-même maintenant.
Elle a toujours appartenu à votre famille ou
toujours appartenu à ma famille depuis toujours, depuis des générations, et c'est moi qui en ai hérité parce que il y avait une force comme l'attraction terrestre, vous savez, c'était la force de la pesanteur. J'étais rivée à cette maison, je savais pas pourquoi, et j'y suis restée. Ma grand-mère me l'a léguée, pensant que je serais celle qu'il sauverait parce que il était question de la vendre, etc. Et j'y suis restée. Et après, j'ai dit bon, cette maison, il faut faire quelque chose avec. Et puis en étant en France, j'ai continué quand même ma vie ici, avec toujours un sentiment d'exil. Hein. L'exil ne m'a jamais quittée quand j'étais à Paris. Je ne suis pas une vraie Parisienne, en fait. Je suis une petite provinciale, vous savez. Et je suis mieux dans les petites villes, dans les petites... comme à Bad Godesberg, ce bourg fait, comme je dis, comme l'appelle Hugo, Victor Hugo, au bord du Rhin. Donc j'aime les petites villes, et Tunis est une petite ville par rapport à Paris. Et j'ai eu l'exil, le sentiment du mal-être de l'exil, et je suis rentrée.
Quelle était, donc vous rentrez au début des années 70 à Tunis, quelle était l'atmosphère? Donc Bourguiba était
détestable.
Encore là pour 17 ans.
Détestable.
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 À cause de Bourguiba?
Ben oui, parce que si vous voulez, sa grande œuvre était terminée. Et tout était figé. Des gens étaient en prison. Des intellectuels de gauche étaient en prison. On a travaillé pour en libérer un certain nombre. Hein. On a, avec des amis... On a fini par... Des gens avaient été... En 68, pour des tracts marxistes, etc., des jeunes gens ont été mis en prison. Bon, bref. Et donc, bon, on sentait... C'est-à-dire, l'oppression était palpable. Et ça, pour quelqu'un... Et même dans ma famille, on résistait à ça. On savait. Et mon père, à ce moment-là, d'ailleurs, avait démissionné. Donc, il avait quitté le pouvoir en 71, déjà. Et il y a toujours eu... Alors, les gens me disent toujours, mais... Finalement, Bourguiba, quel sentiment tu as? J'ai dit, je suis très ambivalente. Je l'admirais. Enfin, j'admirais son intelligence. Quand vous lisez ses articles, vous dites, c'est un crack, quoi. Puis toutes ses décisions, le fait qu'il reconnaisse l'existence d'Israël, envers et contre tout le monde, au prix de sa vie, ce courage. Ce courage. de l'esprit, du génie politique qu'il avait. Il a compris tout de suite l'Amérique. Tout le monde était avec l'Union soviétique, mais lui, il a dit, mais non, c'est les USA. Il a compris l'importance de la culture occidentale. C'est un occidental, Bourguiba. Hein. Il était athée, il ne le disait pas. Mais en même temps, je me disais, mais il est tellement intelligent. Pourquoi est-ce qu'il est aussi tyrannique? Je ne comprenais pas qu'un homme si intelligent fût aussi despote. C'était quelque chose qui me dérangeait beaucoup et je me suis détachée de la politique à cause de ça. Parce qu'il n'y avait pas finalement, si vous vouliez faire de la politique, là, il fallait rentrer dans ce système, servir un système oppressif. Quoi qu'on dise, même si c'était pour les bonnes raisons.
Même si c'était les pour bonnes raisons, c'était mettre
réprimer toute opposition. Mais en même temps qu'il réprimait les religieux, il réprimait aussi la gauche, qui, elle, était beaucoup plus faible, en fait, que le mouvement religieux. Il était minoritaire, très minoritaire. La lutte, le concept de lutte de classe dans le monde musulman ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que nous sommes une société où les rapports entre l'inférieur et le supérieur se stabilisent dans une relation affective. C'est féodal, encore. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, dans le quartier, même si ma maison est considérée comme la belle maison, etc., je suis dans un quartier très populaire. Et les rapports que j'ai avec les gens sont de nature et de presque, comment dire, presque familial. C'est-à-dire, ce sont des gens, ils ont l'impression que je les protège et qu'ils me protègent. C'est une inégalité qui est acceptée parce qu'elle est en quelque sorte atténuée par le contact, la relation humaine. C'est-à-dire que les gens viennent à la maison. C'est pas comme ici, si vous voulez, la bourgeoise du 16e, elle est dans le 16e, d'accord? Elle n'a aucun rapport avec la banlieue. Nous, c'est comme si la banlieue était dans le 16e, à l'intérieur. Et donc, on a des rapports de proximité, de voisinage, de promiscuité même. Et même d'intérêt. Je peux demander un service à quelqu'un du quartier comme il peut me demander service. Et cette absence de frontières est très importante pour la pacification des rapports sociaux.
Et Bourguiba n'empêchait pas ça.
Ça, non.
Ça n'éteignait pas ça.
Ça, c'est la culture populaire. Ça, c'est la culture populaire qui est très vivante encore. C'est comme vous, je ne sais pas, toutes les scènes que décrit Victor Hugo dans Paris, Notre-Dame de Paris, il y a cette culture populaire. Où les gens sont mêlés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur race, quelle que soit... Ça, c'est quand même la civilisation musulmane. Hein. C'est pas... Ça a un nom, ça s'appelle la civilisation musulmane. On ne vit, comme je dis avec mon mari, quelquefois, c'est des petits qui nous règlent nos problèmes, qu'on n'arrive pas à régler dans l'administration parce que eux, ils ont précisément des liens, etc., les petits. Et nous, on règle les problèmes des petits quand eux n'ont pas accès aux privilèges auxquels nous, on a accès.
Votre mari, vous l'avez...
Il n'y a qu'une chose que je ne peux plus leur faire, c'est des visas. Ah, impossible ça. Chaque fois qu'on me demande des visas, la France refuse. Il n'y a plus de visas.
Votre mari, elle est belge, vous l'avez rencontré en France?
Non,
lorsque vous êtes venue
à Tunis. Et donc, où j'en étais là?
Alors, vous en étiez à l'atmosphère détestable. Vous êtes rentrée en Tunisie.
Pour moi, c'était insupportable. C'était cauchemardesque. Hein. J'avais l'impression de vivre dans un cauchemar, de voir tous ces gens soumis. C'était contraire à tout ce que j'avais reçu. En fait, tout d'un coup, là, je butais sur quelque chose qui était contre nature. Et donc, on est reparti.
En quelle année?
On est reparti en 75, je crois. 75, très vite. Et là, j'ai eu un poste à l'UNESCO, j'ai travaillé. C'est là que j'ai commencé à écrire, paradoxalement. C'est pas quand j'étais à Tunis. Et peut-être que si j'avais enseigné, peut-être j'aurais jamais écrit.
Et vous retourniez de temps en temps à Tunis?
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, j'allais voir mes parents. Non, on voyageait. Mais jusqu'au moment où il y a eu ce coup d'État, enfin ce changement de régime, la mise à l'écart de Bourguiba, bon, à ce moment-là, on a connu quelques déboires. Comme étant, mais c'était des dégâts collatéraux, parce que, à cause peut-être d'une part de mes liens familiaux, et d'autre part du livre que j'avais entre-temps publié en France, qui s'appelait « Désenchantement national », et qui était là... J'avais déconstruit le mythe du nationalisme qui était libérateur. Et je montrais que le nationalisme était devenu oppresseur.
Et ça n'a pas plu à Bourguiba.
Mais comment voulez-vous ?
Et est-ce que ça pouvait déplaire à Ben Ali ?
Ça déplaisait à tout le parti destourien. Puisque, en fait, le livre, c'était une sorte de mise en pièce du parti unique, de l'État parti, quoi. C'est-à-dire, c'était la question démocratique. Et un de mes amis, hélas décédé, pour moi, le plus grand sociologue tunisien, qui est Zral, Abdelkader Zral, qui est un homme d'une intelligence exceptionnelle, il avait fait une analyse de mon livre. Et il m'a dit, tu vois, toute la gauche a fait une analyse du régime en termes de classe, de lutte des classes. Et toi, tu as posé la question de la démocratie et non pas de la lutte des classes. Et je lui ai dit, bah, tiens, c'est vrai, Abdelkader, ce que tu me dis. Tu me fais découvrir quelque chose. Et j'avais posé la question de la démocratie sans même le savoir.
Le livre a été publié en Tunisie ?
Non, il a été publié en France, chez Maspero.
Oui.
Et il a été diffusé en Tunisie, absolument. Parce qu'il y avait un éditeur courageux, auquel je rends hommage, qui avait importé le livre et qui l'avait diffusé. Vous voyez, tout, dans la vie, rien n'est fermé. Il y a toujours des petites... On est des débrouillards. On est dans, vous savez, le Sud, c'est une culture de la débrouillardise. Vous parvenez à échapper à la loi, hein. Heureusement que de temps en temps, on peut comme ça faire des écarts de loi, des écarts de... Ici, par exemple, que si vous ne portez pas le masque, vous avez l'amende, c'est sûr. Bon, à Tunis, il y a eu aussi l'histoire du masque. Mais tu penses bien qu'avec le policier qui est à côté de chez moi, ou celui qui est dans le croisement, je l'appelle, il m'appelle, il m'impose. Si je n'ai pas le masque, je dis « Ah, pardon, voilà, je... » Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. On parle, on lui demande des nouvelles de sa famille. Donc, il y a des rapports avec les policiers. C'est ça que je vous dis, le lien, par exemple, avec les policiers qui, pourtant, ont tout pouvoir. Hein, ils ont les étoiles, le costume, ils peuvent tout de suite vous filer une amende. Mais le fait que vous lui souriez, le fait que vous créez avec lui un lien humain, il vous aime. Et donc, il y a un lien d'amour qui se crée. Après, quand ils me font descendre de la voiture, ils me font la bise. Après, ils me font descendre. Donc, je descends et je leur fais la bise, en pleine pandémie, quand il ne faut pas faire la bise aux gens. Voilà le genre d'aberration et en même temps d'échappée humaine, d'humanité. Voilà, l'humanité l'emporte, toujours. Et on est dans des sociétés qui ne sont pas verrouillées du point de vue du droit et où la fantaisie personnelle a encore un rôle à jouer. Ici, non. Ici, on est comme dans une armée. Tandis que nous, c'est dans le quotidien, la fantaisie. Et tous les jours, on a tous les jours des scènes à la Molière, chez nous. Tous les jours, on a du Molière dans la rue. On a des sganarelles partout. Celui qui garde les voitures, c'est un bandit chez moi. Celui qui garde le parking, c'est un bandit, on le sait. De temps en temps, il va en prison.
Mais un bandit grave
un bon voyou, un gentil voyou, un voyou au grand cœur. Il boit, le pauvre. Alors, il fait des bêtises la nuit, quand il boit. Il se bagarre, il se prend. Il va en prison. Quelques semaines, il revient. Je lui dis, mais où tu étais ? Il me dit, ah, la grâce de Dieu, madame, à la ralbe, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Il me dit, j'ai rien fait. Je lui dis, bon, ne recommence pas. Il me dit, non, madame, c'est fini, je suis très sage. Et il me garde ma voiture, il me lave la voiture, c'est un bandit. Donc, en fait, on vit avec des gens qui transgressent la loi en permanence, hein, chez nous. Attention, on vit dans des quartiers dangereux. On vit dans des quartiers où il y a de la drogue.
Et vous trouvez ça plus vivable ?
Bien sûr, beaucoup plus vivable, beaucoup plus humain. Parce que vous êtes, ça c'est quelque chose qui n'existe plus ici. Parce qu'il y a du sacré chez nous. C'est le lien avec les voisins. C'est sacré. On ne touche pas aux voisins. Jamais quelqu'un ne rentrera pour cambrioler la maison. C'est sacré. C'est un interdit. C'est un interdit tellement fort que. Parce que encore une fois, c'est le lien de protection. Les voisins, on ne les touche pas. Donc, comme je vis dans un quartier qui s'est appauvri, qui s'est prolétarisé, parce que la Médina, c'était un quartier plutôt bourgeois, et tous les bourgeois sont partis en banlieue, dans les plages chics, etc. Donc, on est très peu à être restés. Alors maintenant, il y en a qui reviennent. Il y a des artistes qui rachètent des maisons pour les restaurer. Mais ce n'est pas beaucoup. Le quartier, il reste vivant parce qu'il y a... Je suis tout près du petit menuisier, du petit peintre, du petit ferronnier, du petit marchand de fagots. Le marchand de charbon, le petit marchand de charbon dont je parle dans le livre. Tous ces personnages font partie de mon imaginaire personnel. Je ne pourrais pas vivre sans les rencontrer, sans les saluer. Il me manque ici. Il me manque.
Dans cette maison, Elie Béji, vous avez créé, en 1998, le Collège international de Tunis. C'était un club de réflexion, de pensée, ouvert à tous. Donc, tout le monde pouvait venir, y compris les policiers en civil, qu'envoyait Ben Ali pour surveiller ce qui s'y disait.
C'était même pas Ben Ali, c'était la cellule du parti du quartier. C'est ça. Alors, c'est un grand mot, hein, Collège international de Tunis, mais c'est une très petite chose. C'est quand je suis rentrée de Paris, Et puis que j'ai restauré cette belle maison, cette grande maison, que mon père m'a aidé à restaurer. C'est grâce à mon père que j'ai pu le faire. J'avais l'impression que c'était une mission que ma grand-mère m'avait chargée, qui était illettrée. Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Qu'elle m'avait chargée, je voulais absolument, c'était quelque chose, c'était mon devoir. Et en même temps, ça avait du sens, une vocation, c'était une vocation. Donc j'ai refait cette maison et je me suis retrouvée avec mon mari, tous les deux seuls, dans je sais pas quoi, 1000 mètres carrés avec des patios, des jardins. Alors mon mari a replanté tous les patios parce qu'il était agriculteur dans son jeune âge, enfin il était fils d'agriculteur, donc il connaît bien, il a les pouces verts. Et j'ai dit, mais attends, on va vivre tous les deux seuls dans cette maison-là. On est peuplé de... La maison était... Tout le monde était mort. C'était à la fois merveilleux, mais d'une tristesse. Il y avait que des fantômes. J'ai dit, je ne vais pas vivre avec des fantômes. Ce n'est pas possible. Et j'ai décidé, par une sorte de... Je sais pas, de révélation personnelle, que cette maison serait habitée par les vivants et qu'elle ne serait plus une ruine du passé, mais un lieu d'avenir. Un patio intellectuel, un salon intellectuel. Alors, c'est une idée folle, au départ. C'était sous le régime, etc. Je suis allée voir quelques amis, ils m'ont dit, mais tu dors debout, mais tu dors debout, mais tu rêves. Je lui ai dit, qu'est-ce que je rêve? Mais jamais on te laissera. Je lui ai dit, oui, écoute, peut-être, qui sait? Après tout, c'est chez moi. On ne peut pas m'empêcher de recevoir des gens chez moi. Donc, j'étais allée demander quelques aides à des amis tunisiens qui ne m'ont pas aidée sur le plan matériel. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé sur le plan intellectuel, qui étaient avec moi un peu dans cette folie. Beaucoup, non. Enfin, quand je dis beaucoup, vous savez, nous, c'est deux ou trois. C'est beaucoup. Et alors, à ce moment-là, je suis allée voir les Français et j'ai rencontré des gens extraordinaires, très courageux. Un ami qui est décédé, malheureusement, que vous connaissez de nom, qui s'appelle Alain Nadeau, qui est un écrivain, et qui était directeur du livre. Et je lui dis, Monsieur Nadeau, voilà, je viens vous voir, je voudrais faire ça. Je voudrais inviter un tel, un tel, un tel. J'avais une liste de noms et je peux commencer par Jacques Derrida. J'obtiens l'aval de Nadeau qui accepte de payer le billet, qui accepte, etc. Et je fais venir Jacques Derrida. Mais ça a été... c'était phénoménal. Des gens sont venus presque par centaines. Les gens étaient devant la porte. Alors, comment j'ai fait ma pub? Il y a toujours des débrouillards, des gens courageux. Le directeur de la RTCI, je lui rends hommage, je voudrais qu'il m'entende là. Kamel Chérif, il s'appelle, Kamel Chérif. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, Monsieur Chérif, est-ce que vous pouvez diffuser le fait que je tienne une réunion? C'était interdit par la loi. Il fallait demander l'autorisation au gouverneur, au préfet, au machin, enfin comme au préfet. Et moi, je ne vais pas aller demander au gouverneur l'autorisation d'inviter Derrida. Le principe, déjà, me rebutait et je savais qu'on allait me dire non. Donc, j'ai forcé, j'ai dit, je vais le faire et je vais le mettre devant le fait accompli. On va voir où ils reculent, où ils avancent et ils m'intéressent. Et puis, ils diront, on a interdit de parole Jacques Derrida.
Le pire, c'était, vous ne risquiez qu'une interdiction.
Moi, dans mon esprit, oui. Bon, alors, dans l'esprit de quelqu'un de plus peureux, comme je vous dis, je n'ai pas été élevée dans la peur. On était en pleine guerre d'Algérie. J'avais oublié de vous dire qu'on était menacé par la main rouge, que ma mère recevait des coups de fil la nuit en disant « on va vous enlever vos enfants et les tuer » et que jamais mes parents n'ont laissé transparaître cette peur. Mais encore une fois, ils avaient cette, je sais pas comment dire, cette espèce de courage, cette espèce de gaieté qui surmonte la peur. Et, voilà. Et donc, on me laissait faire de la bicyclette alors que je risquais d'être enlevée. Elle m'a dit une seule chose, ma mère, c'était la seule interdit, ne monte qu'avec le chauffeur, Herbert il s'appelle. Ne monte jamais en voiture avec quelqu'un d'autre que Herbert. C'est tout ce que j'avais comme règle. Autrement, je pouvais aller à 5 km en bicyclette, personne ne me suivait. Donc, comme j'ai été élevée là, je n'avais pas peur. Et donc, j'ai pas eu peur et je me suis dit, oui, bon, ils m'interdiront le truc, et puis c'est tout.
Derrida était connu en Tunisie?
Bien sûr. On a une faculté. Des gens ont fait des thèses, des Tunisiens ont fait des thèses sur Derrida. Il y a une tradition de philosophie à l'université française, fac des lettres en français, comme Jean Duvigneau. C'était un professeur d'ailleurs de Tunis, de la faculté, à qui j'ai rendu hommage aussi avec Jean Daniel. Et donc Derrida vient, et là, ça a été extraordinaire. Alors vous allez me dire pourquoi? Pourquoi j'ai fait venir Derrida? Derrida ou un autre, hein? Bon, c'était le pardon. Hein. Le thème, c'était le pardon. Donc, c'était un thème très, très, très fort. Et j'étais allée l'écouter aux hautes études pour savoir comment. Et j'ai vu comment il faisait. Et j'ai vu que c'était un véritable cours ex cathedra qu'il allait faire. Et la conférence a duré 4 heures. Il a parlé 2 heures et il y a eu un débat pendant des heures. Et tout était filmé. Hein, donc les... Alors, ce qui est amusant, le plus drôle dans tout ça, parce que ça fait très collège de France, collège... Non, c'est ma maison, c'est mon patio, c'est le salon dans lequel j'ai grandi. Et surtout, c'est les gens qui participent. Alors, qui y avait ? Qui c'est qui me... Qui... Il fallait louer les chaises. Donc, c'était les chaises du petit vendeur de chaises à côté qui me louait par douzaine les chaises parce qu'il y avait des... Pour les mariages et les enterrements, on loue les chaises. Moi, c'était pour un séminaire, ça ne s'était jamais vu. Donc, je louais les chaises, donc 100, 200 chaises. En gros, je louais à peu près entre 150 et 200 chaises. Et puis, il y en avait dans le patio, on avait des écrans. Enfin, bref, c'était toute une installation. Et qui c'est qui enregistrait parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens ? Ben, c'est le quincaillier du coin qui avait un matériel de faune, phonique, comme vous, comme ça, et de films, de vidéos, qui venait, qui installait sa sono et qui filmait. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'habitude ? Il filme les mariages. Et ça donne, avec très peu, on fait beaucoup.
Jean-Daniel est venu.
Plusieurs fois, quatre fois.
Et vous le connaissiez avant ? Vous l'aviez rencontré à Paris ?
Je l'aimais beaucoup, oui, on s'aimait beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Il est venu faire plusieurs conférences, avant et après la Révolution.
Parmi ceux qui sont venus donner des conférences, est-ce qu'il y a quelques personnalités ? Alors,
il y a Jean Baudrillard. Jean Baudrillard.
Mais qui vous ont particulièrement plu ?
Oui, parce qu'en général, je ne les invitais pas sans connaître. Je n'invitais que quand j'avais lu l'œuvre. Je n'invitais pas comme ça. Voilà. Donc dès que je lisais un livre qui me plaisait, j'invitais les gens. J'ai invité donc Jean Baudrillard. Après le 11 septembre, là, ça s'appelait l'événement. L'événement et le non-événement, bon, c'est toute la pensée, c'est génial. Il y a eu aussi, j'ai invité des gens comme François Julien, parce que j'avais aimé beaucoup son livre « Fonder la morale ». Donc, je fouinais dans la pensée d'avant-garde. Donc, en fait, dans mon esprit, c'était quoi ? C'était le passé, le monde archaïque, parce qu'en fait, je vis dans un monde archaïque, vous savez. Quand je rentre à Tunis, là, je ne fais pas un saut dans l'espace, je fais un saut dans le temps. Je reviens. Vous savez, cet homme millénaire qui est en nous, etc. Je deviens cette femme millénaire. Je redeviens une femme archaïque. Hein. Même dans ma manière de vivre à la maison, je refais les gestes de ma grand-mère, je range les placards comme elle. Tout ça est très important pour moi. Parce que c'est mon équilibre psychique. Je ne suis pas détraquée, je ne suis pas déréglée parce que j'ai ça. Donc il y avait cet archaïsme-là, ces archaïsmes que j'ai décrits dans la conférence d'Hérida. J'ai raconté l'archaïsme de la Médina. Et je me souviens que je pense qu'il avait été frappé. Il ne s'attendait pas. Parce que lui vient d'Algérie. Donc ça sonnait en lui.
Alors pourquoi il ne s'y attendait pas ?
Il ne s'attendait pas que je fasse une introduction sur ce que j'appelais la Médina des innocents. Tous ces gens que je vous ai décrits. Toute cette humanité qui n'existe plus, pittoresque en quelque sorte, mais en même temps profonde, métaphysique. Ces gens pieux, ces gens croyants, pacifiques, non violents. Profondément ancré dans la foi, qui dès que le muezzin se met à même s'il ne prie pas, hein, même s'ils font pas la prière, même s'ils vont, il y en a beaucoup qui vont pas à la mosquée, même qui prient pas chez eux, le fait d'entendre le muezzin, les tensions s'apaisent. Je sens en eux, je le sens autour de moi quand il y a des énervements, alors ils se bagarrent. Puis dès que le muezzin va, il y a comme un soulagement. Tout d'un coup, la parole de sagesse revient et calmons-nous les enfants, calmons-nous. Dieu est plus grand. Il y a des choses plus importantes que les petites misères qu'on est en train, etc. Même si j'ai vécu dans un monde qui n'est pas baigné par la religion, mais j'ai compris l'importance pour un être humain, pour un homme croyant qui n'a pas... Pourquoi ? Pour une raison très simple. Et c'est pour ça que j'ai fait le Collège national de Tunis. Parce que les musulmans, non, l'islam n'a pas eu, à côté de la grande culture religieuse qui a nourri pendant des siècles, hein, pendant 1000 ans, jusqu'à la Renaissance, même, pendant 1500 ans, qui a nourri l'Europe. Il n'y a pas eu, comme en Europe, la floraison d'auteurs, de libres penseurs. Il y avait des libres penseurs, mais jamais en défiant Dieu, jamais dans le défi de Dieu. Tandis que nous, en France, on a eu Molière, Don Juan, qui a défié le commandeur. Le commandeur, c'est Dieu, bon, qui a brûlé à la fin, parce qu'à l'époque, évidemment, le politiquement correct voulait qu'il brûle. Mais c'est Molière, hein, l'imposteur. Donc, on a lu ça. Donc, les Français, ils ont ça. Ils ont des poètes comme Hugo, qui sont à la fois des grands esprits libres, tout en étant par des grands... Dieu est très présent, surtout après la mort de Léopoldine pour Victor Hugo. L'au-delà, le Dieu est très...
Le mysticisme, après.
Le mysticisme, oui, mais c'est les contemplations, c'est un des plus grands textes de la littérature française. Moi, je l'ai tout le temps avec moi, les contemplations. C'est une des plus grandes choses qui a été écrite dans le monde par l'esprit humain. C'est au-delà de la France. Bon, Baudelaire, par exemple. Alors, tout ça fait le relais du religieux. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de prophète, vous n'avez plus besoin de Jésus pour ceux qui sont pas. Mais vous avez Hugo. Mais on a Baudelaire. Baudelaire, qu'est-ce qu'il fait, Baudelaire? Baudelaire, les premiers poèmes de Des Fleurs du Mal, rappelez les titres, c'est bénédiction, le premier poème, c'est bénédiction. C'est un mot religieux. Il y a d'autres poèmes qui sont prières à Satan. Donc il dit que Satan, qui a été chassé du paradis, etc., il est du côté de Satan, Baudelaire. Il a défié lui aussi Dieu, le fameux c'est presque blasphémateur. Il a été condamné, mais paradoxalement pas pour blasphème, mais pour outrage aux mœurs. C'est très bizarre d'ailleurs. Bon. Mais bon, les phares, c'est quoi? Chaque strophe, c'est un peintre, Rubens. Chaque strophe est réservée à un peintre. Et il dit, ce sont les phares de l'humanité. Il dit, cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et qui vient mourir au bord de votre éternité. Donc, cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge, c'est la souffrance du poète, c'est la création, c'est le démiurge humain, c'est le héros, c'est l'homme sur homme qui a pris le relais de Dieu. Donc, comme il y a des œuvres qui nourrissent cette vie spirituelle, vous n'avez plus besoin de Dieu. Vous pouvez tuer Dieu. Nietzsche peut dire Dieu est mort, mais Nietzsche le remplace. Et ça me fait rire d'ailleurs ce que je dis, parce que quand ma grand-mère prie, elle fait ses prières 5 fois par jour devant moi. Vous savez, elle est comme ça assise, et puis tout d'un coup elle regarde, ah c'est l'heure de la prière, elle met le voile, et puis elle se baisse comme ça, elle reste assise, elle fait sa prière, et moi à côté je lis Dieu est mort. Je lis Nietzsche. Donc toute ma vie ça a été ça. Et c'est ça merveilleux en fait. C'est de pouvoir être à la fois bercée par le fait que ma grand-mère, la manière tellement drôle qu'elle a de mettre ce voile et de tourner la tête et de chuchoter, c'est toute une scénographie tellement, tellement drôle, tellement innocente, tellement enfantine, et en même temps le fait de lire un grand philosophe qui t'explique pourquoi que Dieu est mort et que je le cherche, dit-il, avec ma lanterne. Je cherche Dieu.
Merci, Élie Béji. Nous parlerons demain soir du désenchantement. Donc, nous retrouverons ces thèmes.
Merci.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Léné avec Élie Béji. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Frédéric Quérou, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.